Bonjour, je vous remercie d'avoir bravé les éléments qui vont aller en empirant, si j'ai bien compris, après la fin de ce cours en tout cas. Et nous abordons le quatrième cours de cette année, auquel j'ai donné un titre qui pourrait être d'ailleurs le titre de toute l'année, mais nous allons voir aujourd'hui quelque chose de plus précis et toujours en quelque sorte pour dessiner le contour extérieur du Genji avant d'arriver tout à fait à la fin à quelque chose du roman lui-même et commencer la semaine prochaine l'entrée dans le texte. Alors, dans les deux cours précédents, nous avons essayé de délimiter la façon dont nous pouvions comprendre l'intentionnalité profonde du Genji. On dirait Kokoro en japonais en l'écrivant avec le caractère I, n'est-ce pas ? En la dessinant à travers plusieurs témoignages et en relation avec les écrits les plus proches par l'époque et le milieu de l'œuvre elle-même. Nous avons vu, certes bien rapidement, qu'une vision en particulier s'est imposée tout au long de l'histoire japonaise jusqu'à l'époque moderne, celle du roman comme miroir moral et historique, une transposition en milieu japonais, alors que la langue n'est pas souvent, malheureusement, et c'est l'un des buts de ce cours, la langue n'est pas souvent mentionnée comme élément déterminant. Donc, c'est une transposition au milieu japonais de l'histoire savante chinoise, symbolisée évidemment par les mémoires historiques, les shiki, n'est-ce pas, le shoji de Somatien, ou de ce qui est jugé équivalent en sino-japonais, et en particulier les chroniques du Japon, le Nihongi, Nihonshoki. Et comme nous l'avons vu aussi, il y avait également la possibilité de lire le roman pour le plaisir, ce qui s'est toujours fait, et maintenant encore à travers les versions en langue moderne. Mais dès l'époque, et dès la fillette de 13 ans, vous vous souvenez, la fille de Sugawara no Takasue, dont nous avons fait notre témoin clé, nous avons vu très clairement que ce plaisir de la lecture comportait un aspect sombre, pécamineux. C'est par exemple en rapport avec le péché, pour expliquer ce mot un peu en désuétude, tombé en désuétude. Or, il doit être tout à fait évident pour tout le monde que ce sont exactement les mêmes causes qui produisent des effets si divers, des réactions et des appréciations si différentes. Ces causes, c'est la matière même du roman, les aventures parfaitement immorales du radieux Genji, Hikaru Genji, qui provoquent le malheur de tous, à commencer par le héros lui-même, son entourage et sa descendance. Il ne serait d'ailleurs pas inutile de donner ici une fois pour toutes, car nous ne pouvons entrer dans le détail de la narration, ce résumé concis que je vous donne ici, que je vais lire pour être sûr que tout le monde je n'aime pas lire les textes qui sont déjà sur PowerPoint parce que c'est redondant, mais là, je voudrais que tout le monde l'ait en tête. Et c'est un résumé que je trouve très bon dans sa concision, qui est donné dans les regards critiques dont je vous ai parlé la dernière fois, publication de l'Institut des hautes études japonaises, autour du groupe Koten, qui regroupe Jacqueline Pigeot, Daniel Struve et quelques autres amis dont vous retrouverez le nom tout de suite. Alors, voici très, très succinctement et de façon tout à fait éclairante la trame du Genji jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? Roman rédigé par Murasaki Shikibu, je garde l'orthographe de l'original, au début du XIe siècle. Le personnage principal des trois premiers quarts de l'œuvre est le prince Genji, surnommé Hikaru le Brillant, c'est-à-dire le brillant ou le radieux, je pense que le radieux c'est mieux, enfin, fils de l'empereur Kiritsubo et d'une concubine de rang inférieur. Doué de toutes les séductions, il mène de nombreuses aventures amoureuses, épouse la jeune Murasaki Noe, dont il est profondément épris, mais il a commis la faute d'entretenir une liaison avec l'une des épouses de son père, Fujitsubo. Il leur est né un enfant, dont tous ignorent l'origine et qui montera sur le trône sous le nom de Leize. Après la mort de son père, qui le chérissait particulièrement, et la suite de dissensions politiques, sans parler du remords de sa faute, le Genji s'exile à Suma, puis à Kashi. Il reviendra à la capitale, où l'une de ses filles deviendra impératrice, ce qui scelle son triomphe politique. Mais l'une de ses épouses, princesse impériale, le trompe avec le jeune Kashiwagi et met au monde un fils, Kaoru, que le Genji doit reconnaître comme sien. Kaoru est le personnage principal des 10 derniers chapitres du roman. Voilà, nous avons comme cela la trame sur laquelle je ne reviendrai pas. Évidemment, lorsque l'une des filles qui qui épouse l'empereur, c'est la petite Akashi, n'est-ce pas, la fille de la dame Akashi, qui épousera l'empereur Suzaku, qui succédera à Deisei, et la princesse impériale, c'est Onna-san no Miya, n'est-ce pas. Voilà. Donc, il se pose, vous voyez que c'est vraiment un roman de mœurs, à la fois de mœurs politiques et un roman sentimental à la fois. Il se pose alors une question curieuse. Nous avons vu qu'au fil des siècles, et dans la mesure où les interprétations et réinterprétations d'œuvres fondatrices, littéraires en tout cas, se trouvent en quelque sorte légitimées dans l'histoire des idées, l'idée selon laquelle le roman du Genji serait un texte qui dissimule sa nature profonde fut couramment admise dans les milieux lettrés japonais. Et cette nature profonde serait donc une lecture morale de l'histoire japonaise, le roman de cour n'étant que l'occasion d'exposer comment le désordre des sentiments humains vient perturber le bon gouvernement. En ce cas, considérer cette œuvre féminine comme un démarquage ad hoc du genre éminemment masculin qu'est l'historiographie n'aurait somme toute rien d'étonnant. Je suis bien évidemment le premier à approuver une telle lecture, parce que je pense en effet qu'elle est tout à fait fondée. Et nous avons vu que dans ses notes journalières, Murasaki Shikibu elle-même semble appuyer cette idée. La lecture cursive du roman, avec ses nombreuses allusions à l'histoire chinoise, avec ses descriptions minutieuses des rituels et des usages de la cour, fait sans nul doute apparaître que l'un des soucis de l'auteur est de rendre compte fidèlement des mœurs de l'aristocratie ou de l'oligarchie de son temps. Au point que l'on a pu parfois en faire une source pour la connaissance du protocole de cour, cette matière que l'on appelle le Usoku Kojitsu, c'est pas Yusoku Kojitsu, qui est la connaissance de tous les rituels qui permet à un courtisan, et surtout plus il monte dans la hiérarchie, de se comporter correctement en public et dans les occasions solennelles, qui fait vraiment l'objet d'une sorte de transmission secrète. Vous savez que les notes journalières, les nikki tenues par les hommes, les grands courtisans, donnaient des informations pour leurs descendants. Ce n'étaient pas des journaux destinés à être publiés, mais plutôt à être transmis dans la famille, et on leur donnait le moyen de se comporter avec succès en cours. Or, le Genji Monogatari, d'un certain côté, a été considéré comme une source de ce domaine réservé. Par exemple, l'un des exemples, c'est vraiment pour l'époque, c'est le Mido Kampaki, n'est-ce pas, le Mido Kampakuki de Michinaga, qui est le prototype de ce genre de texte. Quant au subtil rapport de puissance entre les différents clans familiaux qui se déchirent pour assurer à leurs enfants une place d'autorité à la cour, voire une place aux côtés du pouvoir suprême, ou le pouvoir suprême lui-même, on le voit tout cela dans le Genji, n'est-ce pas, c'est bien sûr le motif profond des actions, autres que celles fondées sur le désir amoureux. Évidemment, tout cela est connu ailleurs que dans le Genji Monogatari, mais peut-être pas à ce point. Mais pourquoi, si l'on veut bien se rappeler la foule d'éléments qui ont été rappelés lors des cours précédents et qui indiquent sans ambiguïté que les préoccupations de Murasaki Shikibu, lorsqu'elle s'exprimait dans son journal, étaient autrement plus proches du bouddhisme que de la politique ou de l'historiographie, et aussi lorsqu'on se rappelle à quel point les femmes écrivains de l'époque faisaient de leur salut personnel dans une atmosphère baignée par la triste perspective d'entrer dans la période de fin de la loi, le Mappo, donc faisait de ce salut la préoccupation ultime de leurs écrits et de leur vie, pourquoi donc serait-il incongru d'examiner la façon dont on aurait pu rédiger son chef-d'œuvre selon une intention parallèle à celle qu'on lui a prêtée si facilement au cours de l'histoire japonaise, l'intention historique et moralisante? Ne serait-il pas au moins aussi légitime de réviser cette idée à l'aune de ce qui est infiniment plus évident dans ce roman, à savoir la profonde tonalité bouddhique? Bien évidemment, tout le monde s'est aperçu de l'omniprésence du bouddhisme dans le roman. Ce qui est curieux, en revanche, c'est qu'on traite le plus souvent ces éléments comme adventices, comme des ornements inévitables qui relèvent davantage de la fidélité dans la description du milieu et des mœurs des personnages que d'une profonde implication personnelle de l'auteur. Cela paraît invraisemblable au regard de tout ce que nous avons dit. Et la tâche principale du cours de cette année est en conséquence, tout le monde l'aura déjà compris, de montrer que ces éléments bouddhiques ne sont pas du tout superficiels, mais qu'ils sont la manifestation visible, c'est-à-dire lisible, d'une intentionnalité profonde de l'auteur. intentionnalité qu'il est de notre devoir de mettre en lumière. Et l'on va voir, je l'espère, que ce n'est pas une gageure, mais l'éclairage le plus naturel permettant une lecture fructueuse. Je vais cependant commencer, comme j'en ai l'habitude, par faire un détour qui ne me semble pas inutile, bien au contraire, afin de montrer que l'on a toujours ressenti, à la lecture du Genji, le besoin de lui assurer une assise, quelle qu'elle puisse être, historico-éthique ou religieuse, dont on ne ressentait pas tant l'absence dans la logique de la narration que le besoin pour l'intelligence du lecteur. On a toujours voulu s'assurer que l'on comprenait bien le texte et qu'on le lisait dans la bonne perspective. Ce détour passe entre autres par une célèbre pièce de Nō, l'offrande au Genji, Genji Kuyo, dont nous allons voir les grandes lignes. Cette pièce est en réalité l'expression littéraire et ultime de tout un courant qui prend naissance beaucoup plus tôt, et dont nous pourrions même dire que la première manifestation en était le passage du Sarashin Aniki sur l'apparition du moine en rêve. Je ne reviens pas dessus. Elle est la conclusion logique du point de vue religieux d'une façon de voir le Genji Monogatari, où se mélange d'une part l'inquiétude du lecteur qui a conscience de commettre un péché en se délectant de ces histoires d'amour délétères, comme l'auteur finit par le montrer elle-même, malgré toute l'admiration qu'elle témoigne à l'égard de son héros, et d'autre part une révélation religieuse portant sur la véritable nature du texte que nous avons sous les yeux. Et vous allez voir même que c'est la véritable nature de l'auteur qui sera mise en question dans le Nō, qui sera dévoilée dans le Nō. Le Nō que nous possédons, alors, il y a plusieurs variantes, on a maintenant une variante bien établie, et parfois attribuée à d'illustres auteurs, que ce soit Zeami ou Kompalun, je vous donne les dates ici, mais il n'est pas datable avec d'autres précisions que celui de la date, d'une date globale du XVe siècle. Il est toujours très célèbre, et il y a une anecdote, n'est-ce pas, Hideyoshi lui-même, n'est-ce pas, le grand dictateur de l'extrême fin du XVIe siècle, aurait joué le rôle de Murasaki Shikibu dans ce Nō, n'est-ce pas. Donc, c'est 400 ans au moins après Murasaki Shikibu. Et donc, on n'irons pas plus loin dans la datation, XVe siècle. C'est donc une tradition qui se condense et qui sera transmise sous cette forme à la postérité. Il met bien sûr à l'honneur et relie définitivement dans l'imaginaire japonais, c'est quelque chose qui ne date pas de la vogue touristique moderne, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont allés à Nishiyama-dera ont peut-être souri en voyant la naïve reconstitution de la cellule où Murasaki Shikibu a écrit le Genji, mais on a déjà des témoignages ironiques là-dessus dès le XVIIe siècle, n'est-ce pas ? Un des lettrés japonais défenseur de la thèse historico-éthique du Genji Monogatari ricane en se faisant montrer la cellule de Murasaki Shikibu. Donc c'est quelque chose qui est donc lié depuis longtemps et qui remet le temple de Ishiyama, le Ishiyama-dera à l'honneur, qui est près de Otsu, la ville de Otsu, sur les bords du lac Biwa. C'est ce temple Ishiyama-dera, et vous allez voir que ce n'est pas sans rapport avec la trame du Nō, est le 13e des 33 temples qui constituent le... Je pense que je ne sais pas, je ne l'ai pas mis, enfin, ça n'a pas d'importance. C'est le 3e des 33 temples qui constitue le circuit de pèlerinage à Kannon dans les provinces de l'Ouest du Japon, ce qu'on appelle le Saigoku Sanju Sansho, ou Sanju Sankasho. On se rappellera bien sûr que ce nombre de 33 ne relève pas du hasard, comme si le hasard existait dans les nombres, dans les cultures de l'Extrême-Orient, et d'ailleurs un peu partout, mais spécialement en Chine et au Japon. Ces 33, bien sûr, ça correspond aux 33 formes, ou les 33 corps, Sanju Sanshin, les 33 corps métamorphiques, n'est-ce pas, apparitionnels, Keshin, sous lesquels le Bodhisattva Avalokiteshvara, c'est-à-dire Kannon, proclame qu'il apparaîtra afin d'aider les êtres, cette proclamation de sous 33 formes différentes. Et dans le chapitre 25, je vous le dis aussi parce que ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on va voir, le chapitre 25 du Sutra du Lotus, le Kanzeon Bosatsu Fumonbon, qu'on connaît plus couramment sous le nom de Kannonbon, et même qui circule de façon indépendante sous le nom de Kannongyo, le Sutra d'Avalokiteshvara, le Sutra de Kannon. Évidemment, Kanzeon, je n'en reviens pas, Kannon est l'une des appellations possibles d'Avalokiteshvara en sino-japonais. Kanzeon en est une autre. Kanjizai dans le Sutra du cœur, n'est-ce pas, le Hanya Shingyo, etc. Donc, nous reviendrons sur cette liste plus tard. Enfin, vous verrez que c'est une grande importance. Donc, bien que ce temple appartienne à l'école Shingon, l'Ishiyamadera a pour objet principal de vénération, donc le Honzon, une célèbre Kannon à Nyōiden, n'est-ce pas, Nyōiden, donc avec au cercle qui exauce tous les vœux et qui est l'objet du pèlerinage. Comme on le sait aussi, bien sûr, ce temple a un lien très étroit avec la création même du Genji Monogatari, car c'est en y faisant retraite en 1004 que par une nuit de pleine lune, le 15 du 8e mois, Murasaki Shikibu aurait eu, en contemplant le ciel nocturne, l'idée des chapitres Suma et Akashi, c'est-à-dire les 12e et 13e, de son roman. C'est une note. Là aussi, c'est une tradition postérieure. Bien sûr, ce n'est pas Murasaki Shikibu qui le lit dans son journal, mais c'est une tradition qui est bien établie à l'époque. Ces quelques remarques nous permettent de mieux comprendre l'argument de la pièce. Donc, vous savez qu'il y a deux rôles principaux dans le no, le waki qui apparaît d'abord, donc qu'on pourrait appeler le faire-valoir. Littéralement, c'est celui qui est aux côtés de l'acteur principal. L'acteur principal a le nom d'acteur, d'ailleurs shite, celui qui fait, n'est-ce pas ? Donc, ça va être une confrontation entre les deux, avec un groupe autour du waki, et le shite, comme vous le savez. Les deux, d'ailleurs, vont apparaître sous deux formes, et en particulier le shite sous deux aspects différents. Un premier aspect dans la première moitié du no. Ensuite, vous avez au milieu ce qu'on appelle le kyogen, le haikyogen, n'est-ce pas, qui est une sorte d'intermède comique, qui n'est pas sans importance, malheureusement, on ne peut pas y toucher, c'est trop. On n'aura pas le temps. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le nochishite, n'est-ce pas, l'acteur principal revient transformé et accomplit le but du no. Donc, l'acteur, le faire-valoir, excusez-moi, c'est, disons, l'acteur secondaire, et donc le waki, est un prélat de haut rang. D'assez haut rang, il est Hōin, c'est-à-dire sceau de loi, c'est le troisième dans la hiérarchie des hauts prélats bouddhiques. Et c'est donc, il est ici, n'est-ce pas, Aguin, c'est Chōken, qui est quelqu'un de très célèbre, je reviendrai un très léger moment dessus tout à l'heure, et il est donc sceau de la loi, sceau non pas en trois lettres, mais en cinq, n'est-ce pas. Et Agui, faites attention à la prononciation, ça se lit Agui la plupart du temps, c'est une branche très célèbre de l'école Tendai qui s'est consacrée à la prédication populaire. Alors, comme le texte est assez complexe, je n'entre pas dans ces détails parallèles. Mais, donc, le Hōin, n'est-ce pas, le sceau de la loi, accompagné de quelques moines, se dirige vers le temple de Ishiyama afin de faire ses dévotions à la Kannon qui s'y trouve, pour qui il a une foi profonde. Alors, vous voyez, voici l'exemple. Où allez, Ishiyama no Kanzeon au Shinji, il l'appelle ici Kanzeon, n'est-ce pas, c'est au Shinji, Tsuneni ho akobi soro. Kyo mo mata maerabaya tomoi soro. Voilà. Bon, ils disent ce que je viens de vous dire à peu près. La troupe décrit brièvement les beautés du paysage traversé lorsqu'une femme surgit en tenue rustique, c'est pas une sorte de satona, paysanne, donc « No, no, aguin no hoin ni mosbeki koto no soro », n'est-ce pas, je ne vous lis pas sans le ton du no, j'en serais bien incapable. S'il vous plaît, no, no, moshi, moshi, n'est-ce pas? Je voudrais parler au sceau de la loi d'Agui. L'ecclésiastique se présente et lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Ce à quoi la femme se présente à son tour. Alors, il y a tout un jeu sur la personne qui dit qui elle est sans le dire. On le sait tout de suite, mais tout le monde le comprend, n'est-ce pas? C'est comme dans les films de super-héros, mais on ne le dit pas. Et l'identité de la femme principale n'arrive que, grosso modo, vers le milieu du nom. Mais évidemment, personne n'est dupe. Et le jeu sur le nom de Murasaki, ce que je vais traduire, enfin, qu'on traduit par le grémil, mais je propose que lavande, c'est très bien aussi, c'est mauve ou violet, n'est-ce pas ça? Et les traducteurs anglo-saxons ont souvent traduit comme cela. Donc, voici ce qu'elle dit. Elle explique son affaire, n'est-ce pas, Koto, Mosubeki Koto Soro. Retiré au temple d'Ishiyama, alors, Genji Dokujujo Okakishirushi, j'y ai écrit les 60 cahiers du Genji. Bon, on reviendra très rapidement là-dessus, mais il ne faut pas se laisser distraire. Alors, justement, une distraction littéraire, Fude no Susami, qui me poursuit jusqu'après ma mort, Naki Atomade. Bien que la mémoire de mon nom s'y soit conservée, grâce au roman, n'est-ce pas, Nano Katami Towa Naritare Domo, ce roman lui a valu la notoriété, il m'est imputé la faute, Toga, de n'avoir finalement, Tsuini, pas fait offrande au Genji. Kano Genji ni Tsuini kuyo o sezalishi toga ni yori. Donc, elle n'a pas fait d'offrande funéraire au Genji. Et je ne puis émerger, alors ici, Ukamu kotonaku, n'est-ce pas? Ukamu, ukabu, c'est la même chose. Ici, ce n'est pas flotter, mais c'est le contraire de shizumu, c'est-à-dire elle est plongée dans les enfers et elle ne peut en ressortir. Donc, je ne puis émerger des souffrances infernales. Aussi suis-je venu ici, jusqu'ici, vous prier de bien vouloir faire à Ishiyama une offrande funéraire, un kuyo, non? Au Genji, et de prier pour mon salut, Atotoburai Tabitamaeto. Pour son salut et pour à la fois le salut du Genji, les deux sont indissolublement liés ici. Décidément, on a l'impression que chaque fois que quelqu'un s'avise de mentionner le nombre de chapitres de cahier du Genji, c'est un chiffre différent qui apparaît. Je reviendrai très rapidement au début du cours prochain sur cette affaire. Nous, je pense que c'est 54. Mais vous voyez qu'ici, une vieille tradition, une tradition qui ne date pas du 15e siècle, mais bien antérieure, donne 60. Gardons ce nombre de 60 en mémoire pour l'instant. J'avais, il y a quelques années, parlé de cet épisode en précisant avec quelque imprudence qu'il fallait comprendre Genji comme la personne, le personnage plutôt, et non pas l'œuvre. Je serai maintenant beaucoup moins catégorique après avoir constaté que les commentateurs sont divisés. Il me semble malgré tout que mon impression première n'est pas à rejeter, vous le verrez d'ailleurs, il y a bien sûr la possibilité que l'auteur entretienne sciemment l'ambiguïté, ce qui ne nous étonnera pas. Le personnage, en fin de compte, n'est-il pas le roman lui-même ? Il semblerait aussi que cette faute de l'écrivain soit littéraire et concerne bien son héros, c'est-à-dire une faute dans la composition de l'œuvre, parce que vous savez que l'un des petits mystères du Genji, entre autres, c'est que il y a un moment où on sait que Genji est mort, mais ce n'est pas décrit dans le roman. Il y a avant et après sa mort. Elle l'a fait mourir, nous le savons bien. Nous le savons, bien que nous n'ayons pas assisté à sa mort, mais elle ne lui a pas rendu, en tant qu'écrivain, l'office funéraire qu'elle lui devait. Tout est parfaitement décrit dans le roman, donc il y a quelque chose. L'absence de l'épisode dans le roman est une faute à la fois littéraire et morale, vous voyez, d'où son actuel châtiment. Le prêtre est plein de bonne volonté, mais à l'évidence de compréhension appelante. Peut-être est-ce dû à l'atmosphère irréelle qui entoure ce qui est bel et bien une apparition, ou simple affaire de politesse. Il répond donc que, malgré le caractère insolite de la demande, il l'accomplira. Je n'ai pas la citation, mais. Kidoku, n'est-ce pas? Kidoku, c'est vraiment bizarre ce que vous me demandez, mais donc le caractère insolite de la demande, il l'accomplira bien volontiers. Mais il demande à qui, à l'intention de qui, il devra adresser la... le Kidoku intervient plus tard. Ici, c'est simplement « Omoi moyoran koto ». D'ailleurs, enfin, c'est un écho possible du Genji. Mais il demande à qui, vers qui il devra réorienter écho. Ce terme important, on fait un rite dont les bienfaits vont être orientés vers quelqu'un, c'est-à-dire celui qui demande le rite. C'est un concept important dans le rituel bouddhique. Et donc tare to kokorozashite echo moshi sorobeki. Alors, mais l'apparition se dérobe à la question en lui disant qu'elle lui apparaîtra au monastère et qu'elle sera avec lui pour prier pour le repos du Genji. Sonotoki, waremo arawarete, arawarete indique bien, en principe, on ne sait pas que c'est un fantôme, mais tout cela le dit suffisamment, n'est-ce pas? Arawarete, j'apparaîtrai comme une apparition. Et tomoni genjio toburaobeshi. Donc, elle sera avec lui pour prier pour le repos du Genji. S'ensuit alors un dialogue qu'il ne fait que confirmer son identité. Ici, j'ai mis les personnages, donc le waki et le shite, n'est-ce pas? Donc, le moine, Choken, dit « Quelle joie à cette... » Ah, c'est ici, le kidoku, ici, n'est-ce pas? « Quelle joie à cette rencontre extraordinaire! Ainsi donc, celle qui a écrit le Genji, il ne finit pas sa phrase, n'est-ce pas? Et Murasaki Shikibu, « Que j'en ai honte, moi dont le corps est encore en cette terre de souffrance, elle n'est pas encore dans une terre de souffrance, c'est pas parce que elle n'est pas encore sauvée. Et le moine, mais dont le nom n'est sous la mousse point enterré. Et la dame, les nuées qui se lèvent sur le temple de Ishiyama. Évidemment, Ishiyama dera ni tatsukumo no. Les nuées, et vous voyez que ça continue après. Murasaki shikibu ni te mashimasu na. Vous êtes donc Dame Murasaki. Alors, vous voyez que Kumo et Murasaki, les nuées et le violet, l'empourpré, sont mis côte à côte. Littéralement, la couleur violette, si l'on met les deux répliques ensemble, la couleur violette des nuages. Tout ça est un jeu de... que j'en ai honte. Va-t-elle se voir, cette couleur violette, n'est-ce pas ? Hazukashiya, Iro ni Izuruka, Murasaki no. Le Iro ici, c'est la fois, donc le visible, c'est-à-dire son identité va se révéler, et puis le Iro ni Izuru, tout ça, ce sont des allusions au Genji Monogatari. Le Iro, c'est la passion amoureuse, donc la couleur violette, c'est-à-dire elle-même qui est ressortie dans les descriptions de la passion amoureuse, etc. Enfin, vous avez tout un jeu. Donc, avec cette dernière réplique, se déploie une série de jeux de mots dont nous avons vu déjà des prémices dès le Sarashina Nikki. Vous vous souvenez du Murasaki no Yukari, n'est-ce pas, l'affinité, le lien violet. Et sous le nom même de notre Torres, là, et de, à la fois, qui est aussi l'une des héroïnes principales du roman. Nous l'avons dit, cette couleur violette est profondément liée aux croyances de la terre pure, Jodo, n'est-ce pas? Là, nous sommes en principe dans le Shingon, dans l'ésotérisme, mais vous allez voir que le Shingon n'est qu'un prétexte. Ce qui compte, c'est la croyance au Bouddha Amida. Les nuées empourprées sont ici une sorte de code. Et le cœur reprend la phrase en l'associant à cette image. Il reprend « Iro nezuruka murasaki no kumo » On remet encore Murasaki no Kumo, Sonataka, etc., que je traduis ici. Va-t-elle se voir, donc va-t-elle émerger dans le visible la nuée empourprée? Est-ce bien elle, c'est-à-dire est-ce bien vous, et dans la lumière du couchant, sans dire son nom, elle a disparu comme effacée, n'est-ce pas? Kakikesu Yoni Usenikeli. Elle a disparu comme effacée, donc on voit bien que c'était une apparition, un fantôme. Et elle s'est dans la lumière du couchant, encore une fois, allusion à la renaissance dans la terre pure, qui sera le but de ce no. Cette pièce de No est très riche, comme toutes les pièces de No d'ailleurs, dans ses allusions littéraires, et nous ne pouvons que la survoler avant d'arriver à la partie principale pour nous, qui doit nous arrêter un peu plus longtemps. Nous ne faisons donc qu'en marquer quelques points. Remarquons cependant que le moine et ses acolytes se lancent dans une brève discussion que nous pourrions appeler de critique littéraire à première vue sur la réalité de ce que narre le roman. Discussion débouchant sur le sens qu'il y a à effectuer la cérémonie. Aritsuru Genji no monogatari, makoto shikara nu koto naredomo, kuyo onobete murasaki no bodai o fukaku toburau beki nari. Ce roman de Genji dont il s'agit, Aritsuru, n'est certes pas véridique, mais en faisant cette offrande, nous prierons profondément pour l'éveil posthume de Dame Murasaki. Et la même idée se prolonge un peu plus loin. Les fleurs aussi, dont les couleurs violettes se dispersent dans un rêve, n'auront duré qu'un temps, Shitotoki. Quand nous l'entendons, et les romans de Genji, d'un passé disparu sans rien laisser, Adanimo Kieshi Inishie, quand nous l'entendons, combien d'incertitudes nous avons sur sa réalité. On me permettra d'abréger, mais quand même, je veux revenir là-dessus. Il y a deux fois le mot, et encore plus dans le reste du texte, Makoto. Makoto, c'est évidemment, est-ce que c'est du roman ou est-ce que c'est vrai ? C'est une question banale. Mais ce sont des moines qui s'interrogent, et lorsque l'on voit toute la teneur du roman, et lorsque l'on voit la fin, Genjin Monogatari Makotoka, vous allez voir que c'est un appel de la fin en réalité. Makoto signifie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et est aussi la lecture possible de Jitsu, de Minori en japonais, c'est-à-dire ce qui est réel. Mais ce qui est réel dans tout ce qui concerne le milieu lotusien où baigne Murasaki Shikibu, c'est la doctrine bouddhique, et spécialement la doctrine du lotus. Donc, si l'on... Je ne vous redis pas un poème très célèbre, n'est-ce pas, sur le Makoto, qui est bien compris dans le sens de Jisso, vous voyez bien que les moines, lorsqu'ils demandent Makoto, ils ne demandent pas « ça s'est vraiment passé comme ça ». Ils demandent si ce roman a une valeur ontologique, c'est-à-dire son message ne relève pas seulement du phénoménal, mais a aussi une valeur dans la vérité, dans la dimension de vérité vraie, réelle. N'est-ce pas ? Donc, on me permettra d'abréger. Le cœur proclame, alors passons très, très, très rapidement. Son nom apparaît dans la couleur de la lavande. Namo Murasaki no Hiro ni Idete, je ne vous l'ai pas mis. Et notre écrivaine continue à montrer sa confusion. Et après cela, vous avez l'heure du Kyogen. Et c'est aussi l'heure de la transformation. Elle réapparaît donc en somptueuse atour. Là, je vous donne ici deux illustrations que j'ai trouvées sur l'Internet. Vous voyez Murasaki Shikibu, elle a effectivement un vêtement d'une couleur que j'appellerais Murasaki, pour ne pas me compromettre trop. Et donc, elle revient et avec dans cet aspect. Et l'apparition est ainsi décrite. Ainsi donc, par le religieux, par Choken, ainsi donc, au plus profond de la nuit, alors que les oiseaux se sont tus, quand le cœur est saisi d'angoisse, regardant vers la lumière de la lampe, m'apparaît comme une ombre une femme si belle, tenant le pan de sa traîne violette. Vous voyez, c'est la seconde photo, n'est-ce pas ? Dont je ne peux discerner si c'est rêve ou réalité. Yumeka Utsuka Hakan. Obotsukana. On reviendra là-dessus. Cette fois, le prélat lui demande clairement si elle est Dame Murasaki. Murasaki Shikibu Nite Mashimasuka, ce à quoi elle répond avec la même ambiguïté. Mais arrivons-en au cœur de la pièce, la danse que va exécuter le shite, le nochi shite, donc, tandis que le cœur va psalmodier un texte. Après avoir répété les raisons de sa demande, le fait qu'elle ait écrit, c'est l'occasion ou jamais de dire qu'il avait commis un roman, sans faire d'offrande funéraire à son héros, le rite effectué va être souligné par la danse que l'apparition va exécuter. Mais elle en donne tout d'abord la raison. « en profitant de cette affinité si rare, je n'ai pas mis ça, mais donc j'ai fait en pensée Shinju no Shogan Ohashi. J'ai fait en pensée un vœu que j'ai copié sur ce rouleau, Hoshi plutôt. Afin de, donc, Shitotsu no Makimono ne Otsushi. Afin de nous éveiller du sommeil de l'ignorance. Mumyo no Nemuri o Samasu. C'est un terme technique, n'est-ce pas? L'ignorance, c'est la première, le premier des 12 liens causaux, n'est-ce pas? Vous en souvenez. Donc, vénération au Bouddha, sous-entendu, vénération Namuya, n'est-ce pas? Vénération au Bouddha Amida, que le fantôme du, alors c'est ici Yurei, que le fantôme du radieux Genji réalise l'éveil complet et correct. Deux termes technique, tout à fait technique du bouddhisme, mumyo d'un côté, donc, mais le joto shokaku, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est la fin. Alors c'est un texte, c'est un terme qui a son importance, parce que vous allez voir que dans la recomposition thématique des chapitres que je vous proposerai, cela a un sens. Commence alors avec la danse en récitatif, donc je vous l'ai dit, la partie continue, c'est la partie continue la plus longue de la pièce, et elle constitue le sommet de l'action. Et c'est aussi la partie la plus intéressante pour notre propos. En un véritable feu d'artifice genjiesque, sont énumérés les titres de 25, si mon compte est exact, des 54 chapitres. Mais alors que le fantôme en donne 60, n'est-ce pas? Mais ici, il y en a 25, mais nous allons voir que c'est sur la liste traditionnelle. Il ne saurait être question de les examiner un par un. Remarquons d'abord que l'on ne trouve pas le titre le plus explicitement bouddhique ici, mais il se retrouvera par ailleurs, je l'ai dit, c'est le titre du chapitre 40, Minori, qui veut dire la loi. C'est dire que tous les titres qui sont considérés comme des marques de notre monde sinistre, notre monde sinistre, les Okiyo, sont repris dans le récitatif à la lumière du bouddhisme, qui en transforme et annule le potentiel pécamineux. Remarquons ici aussi que malgré la sélection des chapitres effectués, dans ce no, en réalité, ça repose sur des textes plus anciens dont je vous parlerai dans un instant, et qui sont complets. C'est vraiment l'auteur du no qui a fait ce choix ici. L'ordre que nous connaissons est globalement respecté, mis à part deux chapitres. Mais ce décalage s'explique par des raisons antérieures, encore une fois, sur lesquelles je ne reviens pas. Donc il n'y a rien de bizarre là-dedans. L'important est que le premier chapitre, le Kiritsubo, et le 54e chapitre, le Yumeno Kihashi, le pont flottant des rêves, soient bien à leur place. Ils y sont, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment la conception traditionnelle du Genji qui est là. Le fait que le texte prête 60 chapitres au roman n'influe donc pas sur l'énumération. Nous ne verrons ici que quelques exemples. Je compte consacrer le séminaire de cet après-midi à une lecture plus détaillée de ce texte et de ceux qui précèdent. Enfin, ça m'étonnerait qu'on ait le temps en deux heures, mais nous en ferons le plus possible. Alors je vous donne ici... Voici le texte commence. Somo somo, n'est-ce pas? Donc, la fumée du soir au clos des Polonia. Je vous lis simplement le premier paragraphe en quelque sorte, complet. La fumée du soir du clos des aux Polonia, c'est-à-dire le Kiritsubo, n'est-ce pas? Donc, chapitre 1. Parvient rapide au ciel. Alors, ici vous avez Sora, mais vous avez aussi Kumo dans une variante. De la nature de loi, Hosho no Sora, un terme technique. Les feuilles des paroles dans une nuit de l'arbre balai. Bon, ce n'est pas une très jolie traduction, malheureusement. D'ailleurs, c'est Hawakigi, n'est-ce pas, ou Hahakigi, c'est un arbre dont les branches servaient à confectionner, les rameaux servaient à confectionner des balais. Donc, les feuilles des paroles dans une nuit de l'arbre balai, chapitre 2, finissent par se disperser dans l'arbre d'éveil, Kakuju. La détestation de ce monde aussi vide qu'une mue de cigale, Utsusemi, chapitre 3. La contemplation ou l'émotion, selon les variantes, de la vie aussi vaine que la rosée de Belle du Soir, Yugao, chapitre 4. L'accueil de la nuée pourpre comme la lavande, évidemment, c'est le chapitre 5. Waka Murasaki no Kumo no Mukae. Vous voyez que ça lie à la fois Murasaki no Kumo et Waka Murasaki, qui est le titre du chapitre. L'accueil de la nuée pourpre comme la lavande, tout cela permet de prendre place sur le trône de ce que je traduirais ici par Suetsumu Hana, avec les traducteurs anglo-saxons qui ont bien étudié les liens botaniques avec ces plantes. Donc on peut le traduire par une sorte de safran, n'est-ce pas? Et ainsi, vous voyez, ça finit par Seba. Foin des feuilles d'automne tombées à la fête des érables, le Momiji no Ga, donc qui est le chapitre 7, en rencontrant par chance l'intention salvifique du Bouddha, Butsui, guidé par les feuilles de l'arbre sacré, qui est le Sakakiba, n'est-ce pas, donc qui est le chapitre 10, il nous faut faire vœu de bonne renaissance. Ojo o negau beshi. Constatons qu'il manque les chapitres 8, Hana no En, et 9, Aoi. Mais ça n'a pas d'importance, puisque je vous dis, il ne faut pas y attacher trop d'importance ici. Mais remarquons aussi que ce qui est caractéristique de tout le passage, au terme japonais, le plus souvent donc en Yamato Kotoba, puisque ce sont des mots purement japonais, puisque ce sont les titres du Genji Monogatari, où tout est pratiquement en Yamato Kotoba, sauf lorsque ce sont des composés comme Momiji no Ga, n'est-ce pas ? Momiji est vraiment un Yamato Kotoba, Ga est un mot, un kango, un mot chinois. Donc à ces mots typiquement japonais sont opposés des termes sino-japonais exprimant des dogmes bouddhiques, parfois de compréhension ardue pour les laïcs, comme Hosho par exemple au tout début, n'est-ce pas ? La nature de loi, la dharmata, qui désigne la dimension transcendante où existe le Bouddha encore de loi dans le plan du même nom, n'est-ce pas ? Dans le plan de loi, Hokkyo. Et le Bouddha en Hoshin, en corps de loi. Donc ce sont des choses qu'on connaît vaguement, mais qu'on serait souvent bien incapable de définir dans le bouddhisme populaire. Mais en même temps, il faut comprendre que ce Hosho, je n'insiste pas là-dessus, ça désigne le Bouddha en corps de loi, mais ça veut dire aussi nature des dharmas, c'est-à-dire des phénomènes, la nature phénoménale qui, dans certains textes, sont associés, Busho, nature de Bouddha, Hosho, nature des dharmas, sont ensemble. Alors vous voyez où cela nous entraîne, ça nous entraîne en fin de compte à l'identification finale. Allons directement donc à la fin de cette tirade qui résume bien l'ensemble. Nous traverserons résolument le pont flottant des rêves, Yume no Kihashi, et ferons vœu d'obtenir que le Bouddha Amida vienne, enfin sous-entendu, n'est-ce pas, mais Raigo, Mino Raigo Onegao Beshi, Raigo, c'est-à-dire le fait de venir à la rencontre, désigne automatiquement le Bouddha Amida à cette époque. Ça peut parfois être le Bouddha Maitreya, mais enfin, et encore, je ne sais pas s'il y a des Raigo avec Maitreya. Donc, salut à l'ainsi venu Amida en son royaume de l'Ouest, n'est-ce pas ? Namuya Saiho, sous-entendu Gokuraku, Amida Nyorai, ici. Et puis vient la phrase que nous attendons tous, puisqu'elle est au cœur de l'inquiétude concernant le sort post-mortem de notre auteur, rejetant les propos fous et paroles spécieuses. Le mot est enfin lâché, n'est-ce pas ? Kyogen Kigo, ou Kigo, au Furistete. Rejetant les propos fous et paroles spécieuses, veuillez porter aide pour la prochaine existence de Dame Murasaki, et en même temps que ces mots, le son de la cloche retentit et la réorientation des mérites fut achevée. Nous sommes ici en terrain connu, et cette demi-citation explique la juxtaposition des deux langues que je viens de signaler. Chaque terme bouddhique sino-japonais vient en quelque sorte contrer les termes japonais pécamineux. C'est-à-dire que nous avons bel et bien la réalisation du programme qui est contenu dans la citation intégrale du poète chinois du IXe siècle, Po Chui, n'est-ce pas ? Hakurakuten, Hakkyoi, que j'ai rappelé plusieurs fois au fil des ans et que je vous rappelle encore ici parce qu'elle est très importante. Je souhaite que mon œuvre d'écriture profane, voyez, Seizokumoji, Seizokumoji, c'est à peu près la façon dont on traduirait en chinois classique, parce que Paul Jui ne parle pas japonais, qu'on traduirait kana, c'est-à-dire les textes syllabaires japonais. Mais, c'est-à-dire que pour les Japonais, c'est ce que ça veut dire aussi. Donc, je souhaite que mon œuvre d'écriture profane, que j'ai faite en cette existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, se retourne, shirugaeshite, n'est-ce pas, shirugaesu, hon, ici, le premier caractère de la deuxième ligne, se retourne pour devenir dans les existences futures cause de louange au véhicule de Bouddha, Butsujo, et condition de mise en branle de la roue de la loi. J'ai déjà fait remarquer au séminaire que cette citation se trouvait au cœur du Wakan Roeshu, le recueil des poèmes chinois et japonais dignes d'être psalmodiés ou chantés, de Fujiwara no Kinto, contemporain de Murasaki Shikibu, donc, et texte qui fut rédigé en 1013 selon l'avis général, donc au moment du Genji. Tout le monde le connaissait, donc tout le monde connaissait cette citation à l'époque, et plus tard aussi, bien sûr. Elle est constamment répétée, hein, je ne reviens pas là-dessus. Nous voyons donc le récitatif de cette pièce de nous faire exactement ce que demande Pochuyi dans son vœu. Les termes sont transformés, permutés, shirugaesu, en moyen de propager la doctrine bouddhique. Il semble bien que le récitatif donne aussi, transmette en même temps, c'est le cœur, hein, mais c'est aussi Murasaki Shikibu elle-même qui parle. Et qu'il ne s'agit donc pas d'une élaboration littéraire du cœur, d'un commentaire. Cela est bien renforcé par les dernières paroles du No. Tout d'abord, le fantôme remercie. Ah pardon, je n'ai pas donné ici. Par la puissance du rite en vue du salut posthume du radieux Genji, je suis assuré de participer moi aussi au banquet de la fleur de lotus où je renaîtrai. Alors vous voyez, Hachisu no hana no en. Vous voyez que le Hachisu no hana no en, le banquet de hana no en, c'est le titre du chapitre du chapitre dont nous avions signalé, c'est le chapitre 9, qui est avant le 10e en tout cas, c'est le 8 ou 9, je pense que c'est le 9, j'en suis pas sûr brusquement, mais en tout cas c'est l'un des chapitres qui n'est pas dans l'énumération, et c'est Murasaki Shikibu qui le donne elle-même, et en le transfigurant, en disant que cette fête des fleurs, n'est-ce pas, Hana no en, c'est le banquet, le pique-nique, la fête pique-nique, n'est-ce pas, est transformée en Hachisu no Hana no en, c'est-à-dire la fête de la fleur du lotus qui pousse dans les temps où renaîtra Murasaki Shikibu, et évidemment Hachisu no Hana, c'est le sutra du lotus. C'est le chapitre 8. Donc c'est une ultime fioriture littéraire, n'est-ce pas, la mention du chapitre 8 qui avait été laissée de côté tout à l'heure et qui est ainsi remis dans le cycle. Mais voici alors la chute décisive, et c'est là c'est quelque chose qui n'est pas dans les traditions antérieures. Donc, excusez-moi, je n'ai pas donné le. Oui, il n'est pas très intéressant, mais enfin, en soi, mais je vous le lis. Je vous le lis seulement, parce que ce qui est important, c'est l'identification. C'est le cœur, donc, qui parle, et les moines qui accompagnent Choken. Et je vous dis encore, c'est la révélation du no, n'est-ce pas ? À y bien réfléchir, celle que l'on appelle Murasaki Shikibu est la Kanzeon du temple Ishiyama, c'est Kanzeon Bosatsu, Avalokiteshvara, qui s'est manifestée provisoirement en ce monde, Karini arawarete, konoyo ni arawarete, avec le roman du Genji tel qu'il est, Kakuno Gotoku. Si on y pense encore, c'est un expédient salvifique, Hoben, pour faire connaître aux gens le monde comme rêve, un serment on ne peut plus précieux. Et si l'on y pense, le pont flottant des rêves, le dernier chapitre, c'est un discours fait en rêve, c'est un discours fait en rêve. Je n'ai pas le texte complet ce soir. Donc vous voyez que la lecture de ce paragraphe, de sa conclusion, combien les lettrés japonais, imprégnés de pensée bouddhique et de pensée bouddhique de la version la plus japonaise, n'est-ce pas, la noétique, le yuishiki, c'est-à-dire le fait, le rien que conscience ou même le rien que pensée, c'est-à-dire que tout n'est que reflet de la pensée, et évidemment l'allusion au rêve est tout à fait normale dans un tel contexte. Donc, depuis le début du texte de ce no, nous fluctuons entre les deux dimensions, yume, utsutsu. Et utsutsu reflète makoto, n'est-ce pas, la réalité c'est aussi le makoto. Et il nous est finalement démontré que nous avons eu tort de prendre l'ensemble de la narration au pied de la lettre. Mais le premier paradoxe est bien sûr avant tout la relation entre l'écrivain et son personnage. Elle est damnée, Murasaki Shikibu, pour ne pas avoir décrit le rituel littéraire qui aurait dû accompagner l'imaginaire Genji lorsqu'il est mort. Et l'étrange absence de la scène de la mort du Genji, qui est mystère littéraire, devient ici l'objet d'un jugement surnaturel. Il n'y a personne pour lui objecter ce qui viendrait à l'esprit de tout lecteur moderne, mais c'est du roman. S'ensuit alors la scène du récitatif, qui doit mener au salut posthume du personnage imaginaire. Elle donne en même temps une clé exégétique du Genji, qui n'entend probablement pas s'appliquer dans les détails, mais dont le principe est clair. Chaque chapitre du Genji doit être lu à la lumière des dogmes du bouddhisme, et même chaque chapitre illustre ici un dogme précis. Si c'est l'auteur lui-même qui l'affirme, il n'y a pas de raison d'en douter. Mais bien évidemment, la chute finale vient inverser complètement Hirugaesu, la perspective, le personnage est imaginaire, mais l'auteur l'est tout autant. Murasaki Shikibu, dont le nom n'est finalement qu'une fiction tirée de son roman, et elle apparaît déjà en cela comme un personnage qu'elle aurait elle-même créé, n'est qu'une fantasmagorie, c'est une création du Bodhisattva Avalokiteshvara lui-même. Ainsi s'explique le plus naturellement du monde le lien avec l'Ishiyamadera, où Murasaki Shikibu aurait eu son inspiration première, puisque c'est la kannon de ce temple, qui est le Honji, n'est-ce pas, le Honji Suijaku, dans la doctrine du Honji Suijaku, la base originelle et les traces descendues, la base, le fondement et les vestiges, si vous voulez, vestiges au sens vestigium latin, n'est-ce pas, la trace. Donc, c'est la kannon qui est derrière Murasaki Shikibu. Et nous voyons les nombreuses occurrences dans ce texte, nous voyons souvent le mot « ato » que nous pensions traduire dans le sens de « posthume », ce qui vient après, mais ça veut dire aussi la trace. Et à la lumière de la révélation, donc Murasaki Shikibu, c'est Avalokiteshvara, le mot « ato » qui revient constamment prend un sens nouveau. « Ato », c'est Murasaki Shikibu comme trace d'Avalokiteshvara. Vous voyez, c'est très complexe. Donc, nous sommes bel et bien dans une situation de Honji Suijaku, de base foncière et de traces descendues, de fondement et de vestiges. On pourrait même dire et de vertiges. Bien sûr, l'auteur du no, quel qu'il soit, n'a pu s'empêcher de confirmer la cohésion de son identification. Et c'est là, c'est quelque chose qui est tout à fait, soutenable. Il y a 25 chapitres identifiés ici, ce qui fait, du Genji Monogatari. Or, je vous ai dit, le Kannongyo, le chapitre de Kanzeon Bosatsu dans le Sutra du Lotus, c'est le 25e. Et on ne peut que penser qu'il y a un sens. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un 26e chapitre, qui est ajouté par Murasaki Shikibu après l'énumération. Alors, en réalité, ce récitatif d'une pièce de no, datable du 15e siècle, est l'aboutissement d'une longue tradition qui remonte, ou que l'on fait traditionnellement remonter, au moine Choken. Je vous dirai ça. Que l'on fait traditionnellement remonter au moine Choken, donc 1126-1203, à peu près contemporain de Jien, qui est un religieux de l'école Tendai, connu sous le nom de Agui Hoin, et fondateur d'une lignée de religieux prédicateurs. N'est-ce pas, c'est spécialisé ici dans le Shodo, n'est-ce pas, la prédication extra-monastique. Ce récitatif n'est qu'une adaptation de ce texte, qui est connu par plusieurs versions en sino-japonais et en japonais. Nous reviendrons sur ce texte plus en détail au cours du séminaire, mais disons ici que la liste des chapitres du Genji qui est donnée, plus complète que dans le récitatif, donc dans les textes antérieurs, présente parfois des divergences avec la liste canonique, puisqu'il y en a parfois jusqu'à 57, et même dans l'ordre aussi, ce qui explique les anomalies de l'ordre du No ici. Mais il est intéressant de constater que le récitatif du No redonne en abrégé une liste canonique qui se termine bien par le chapitre 54. Et remarquons aussi combien la locution de Pochuyi, Sezoku Monji no Go, n'est-ce pas, le karma des lettres profanes, s'applique profondément au Genji. L'idée est renforcée par le terme Kalini du récitatif, je vous ai dit, provisoirement, apparu provisoirement, c'est le Kalini qui est aussi le Kali de Kana, les lettres provisoires que sont les Kana. Cette idée de l'acte nuisible et pécamineux, donc, est constamment répétée, de la poésie, est constamment répétée dans les Genji Kuyo. Alors, cette identification est-elle complètement neuve? Est-ce une création hardie du dramaturge? Bien sûr que non, car nous nous souvenons du poème de Senshin Aishinno, vous savez, la contemporaine de Murasaki Shikibu, dont je vous avais parlé la dernière fois, qui avait fait un Shakkyoka, un poème à thème bouddhique, qui était explicitement fait sur ce chapitre, sur ce chapitre du Sutra du Lotus, qui est le Myoho Bosatsu, Bosatsu Hon, on peut dire, il y a plusieurs façons de dire, mais Myoho Bosatsu Hon, je vous propose de dire ici, le chapitre 24, donc sur le Bodhisattva, sont merveilleux. Et je vous redonne cette citation ici, je vous la traduis. Ainsi que les êtres des endroits difficiles, il est capable de les sauver. Il naît jusqu'aux gynécées royaux où, se transformant en corps féminin, Avalokiteshvara, se transforme en femme. Bon, vous me direz, mais c'est une femme. Oui, mais pas à l'époque, hein, encore. C'est au Japon qu'elle s'est complètement féminisée, enfin, après un passage par la Chine. Donc, se transformant en corps féminin, il ne prêche ce texte canonique. Ici, il ne s'agit pas d'Avalokiteshvara, mais c'est la conduite d'un bodhisattva, n'est-ce pas? Donc, le bodhisattva se transforme en femme pour aller dans les appartements rois, dans les gynécées, prêcher la loi. C'est bien exactement ce qui est illustré par le Genji Kuyo, le No. Nous avons vu que si une femme peut devenir Bouddha, la petite dragonne, n'est-ce pas? Les Bouddhas et bodhisattvas peuvent en retour se faire femme. Murasaki Shikibu n'était autre qu'un bodhisattva, un être d'éveil, et pas n'importe lequel, qu'un non-sama elle-même, n'est-ce pas? Cela nous invite donc à changer complètement notre regard et à considérer tout l'épisode relaté par le No, là encore, comme un expédient salvifique. On fait semblant de se poser la question du caractère pécamineux du Genji pour découvrir en fin de compte qu'il n'en est rien. C'est bien une prédication dans le sens phénoménal. C'est bien une prédication dans le monde phénoménal d'une vérité suprême. Il semble que cette assimilation, d'une grande hardiesse malgré tout, soit propre à l'auteur de ce No. Nous n'en retrouvons pas en effet l'équivalent dans les différentes versions du Gammon, du Shobyaku, n'est-ce pas, les intentions, les proclamations d'intention de cérémonie, ce sont des textes donc consacrés au Genji Kuyo comme véritable rituel qui est repris dans le récitatif du No. Nous avons vu que la décision de ne retenir que 25 chapitres peut être significative de cette assimilation. Mais il faut aussi constater qu'elle est parfaitement dans la logique assimilationniste bouddhique du Honji Suijaku, n'est-ce pas? Là, les bases foncières et les traces descendues, c'est un processus constant d'identification de ce qui est dans la réalité japonaise avec la réalité bouddhique. Observons, ça nous entraînerait trop loin. Donc, ce qui est important pour notre propos est de souligner que puisqu'il y a déjà mise en correspondance élaborée des chapitres du Sutra et du Genji au cours d'un rituel, sur lequel je ne reviens pas ici, antérieur à cela, mais il y a déjà une identification des 28 chapitres du Sutra du Lotus avec les 54 du Genji Monogatari, ou parfois, en général, maintenant c'est, après c'est 54. Cela existe, n'est-ce pas, dans une tradition bouddhique que l'on fait remonter à Chōken, donc aux alentours de l'an 1200. Donc, on pose par ce rituel l'égalité entre les deux, dans la logique du soku, n'est-ce pas, sunawachi. On pourrait dire que le Genji Monogatari soku hokekyo, le Genji Monogatari est le hokekyo. Dans le monde phénoménal, c'est le Genji, dans le monde réel, c'est le hokekyo. Et donc, poser un agent commun aux deux, c'est-à-dire un acteur commun, c'est-à-dire Avalokiteshvara, n'est-ce pas, est tout aussi naturel. Nous ne sommes certes pas obligés d'adhérer à cette vision tardive du Genji, mais nous ne pouvons que remarquer, pour revenir à l'approche que nous essayons de mettre en œuvre, que seule une vision bouddhique peut se déployer avec tant d'ampleur et de vraisemblance sur ce texte. Qu'en tout cas, seules des visions bouddhiques ont été tentées sur une telle échelle. On ne pourrait pas s'amuser à faire la même chose entre le Genji Monogatari et les mémoires historiques de Soma Tsien, par exemple, ou le Nihon Shoki. La vision historicisante n'a jamais tenté d'aller aussi profondément dans l'herméneutique du texte. Bon, il est vrai qu'il n'en a nul besoin, car la vision historique s'explique en quelque sorte d'elle-même. Nous avons donc montré qu'une vision profondément bouddhique de l'œuvre s'est déployée au fil des siècles. Elle a été élaborée à l'envi par les moines et les lettrés. Il est facile, c'est vrai, avec un peu d'imagination, de plier toute œuvre à l'idéologie ambiante. Mais cela ne suffira pas pourtant à notre exigence de compréhension. Faut-il voir dans ces lectures bouddhiques une trahison, une compensation, une élévation d'un texte par trop mondain, ou bien avons-nous vraiment de quoi chercher dans l'œuvre elle-même les raisons de sa dématérialisation, si j'ose dire? On aura compris quelle est notre opposition, et tous ces préambules ne font que la soutenir. Mais il faut entrer dans le texte lui-même. Je parlerai au prochain cours de sa structure en chapitres. Mais ici, avant de nous quitter, je voudrais attirer l'attention sur un trait structurel qui a, semble-t-il, échappé à beaucoup de commentateurs. C'est un terme un peu trompeur que celui de structurel. Je veux dire que si l'on considère le roman tel que nous le possédons dans son ensemble et que l'on prend garde à ce qui constitue les points forts de la narration, ce que l'on pourrait appeler à la fois l'accompagnement musical de l'action et comme les sous-titres ou les intertitres, expliquant, soulignant les émotions des personnages, à savoir les waka, les presque 800 poèmes qui émaillent le roman, répartis de façon très inégale selon les chapitres, nous observons d'étonnantes rencontres. Considérons donc un instant le roman comme un recueil de poèmes. C'est ce qu'il est aussi, et la postérité prémoderne d'ailleurs en a jugé de même, si l'on considère le nombre d'éditions abrégées du roman, spécialement à l'époque d'Edo, donc juste avant la modernisation du Japon, qui abrège le texte en prose, mais en gardant les poèmes. C'est-à-dire que les poèmes sont considérés comme plus importants que la prose dans ces digestes du Genji. Or, comme nous le voyons depuis des années, les premiers et derniers poèmes de tout recueil sont particulièrement importants, au Japon, comme dans beaucoup d'endroits. Le premier, bien sûr, comme toute ouverture, et le dernier en ce qu'il constitue le point d'orgue de l'ensemble, la conclusion et la vraie clé de la compréhension. Nous aurions trop d'exemples à donner. Il suffira de se reporter à nos cours précédents, et spécialement celui sur les poèmes des divinités, les Jingika, et celui sur le Wakan Roeshu. Si nous faisons de même avec le Genji, que voyons-nous? Tout d'abord, le premier poème du premier chapitre, Kiritsubo, le clos Polonia. Kiritsubo étant à la fois, toujours l'ambiguïté cultivée par l'auteur, n'est-ce pas, Kiritsubo est à la fois le nom de l'empereur, qui fut le père de Genji, et la dénomination par appartenance, si l'on peut dire, de sa concubine impériale, l'éphémère favorite, qui fut sa mère, et que l'on appelle Kiritsubo Koi, la chambrière de Kiritsubo. Donc c'est à la fois le nom d'empereur et d'une concubine de rang secondaire. Épuisé par les brimades mesquines que lui valent de la part des autres dames de la cour l'affection du souverain, après la naissance du prince, elle veut quitter le palais, malgré les supplications de l'empereur. Et elle compose ce poème que je vous donne ici. Kagiri Toten. C'est l'heure, me dis-je, et à la tristesse de nos voix qui se séparent, j'eusse voulu aller sur celle de la vie. La malheureuse sait que sa vie est proche de la fin, et elle s'en retourne auprès de sa mère vivre ses derniers jours. Le mot important est ici « michi », la voie et ses multiples sens, la voie, le chemin. Il y a 9 poèmes dans ce premier chapitre, ce qui le classe dans la tranche inférieure des 54 chapitres, puisque vous avez des chapitres où il y en a beaucoup plus. Donc c'est un chapitre où les poèmes sont assez rares pour donner encore plus d'importance que par ailleurs. Mais si nous allons au dernier chapitre, le Yumen Ukihashi, le monde flottant des rêves, nous découvrons que ce chapitre, ce dernier, ne comporte qu'un seul poème, ce qui lui donne bien sûr une singulière importance. Cette unicité criante est à l'évidence voulue. Il n'y a que 2 chapitres dans le Genji à ne présenter qu'un seul poème. L'autre étant le chapitre 42, je ne reviens pas dessus. C'est donc le dernier chapitre du livre, composé par Kaoru. C'est donc le dernier poème du livre, pardon, composé dans le dernier chapitre par Kaoru, le fils en quelque sorte adoptif de Genji, dont nous avons vu le rôle dans le résumé, et l'amant malheureux de la très malheureuse Ukifune, à qui est destiné le poème que nous donnons ici, le dernier. Nori no shito tazunu no michi o shiru benite, omowanu yama ni fumi madaokana. Me laissant guider par la voie où je cherchais un maître de loi, en une montagne imprévue, je me suis égaré. Ça a presque des accents dantesques, n'est-ce pas, ce poème. Les résonances, donc, ne font que mettre en relief qu'il a tout l'aspect de quoi ? D'un shakyoka, d'un poème à thème bouddhique, d'un poème spécialisé. Tout d'abord par le premier vers, qui est du point de vue Nori no shi, comporte un terme chinois, n'est-ce pas, ce qui n'est pas bien vu dans les waka en général. Et ça veut dire le maître de loi. Donc c'est quelque chose de très... c'est un terme qui apparaît dans le Genji d'ailleurs. Donc il a tout l'aspect d'un shakyoka par le premier vers qui ne peut laisser de doute sur le caractère bouddhique de la composition. Et on n'oubliera pas qu'il est adressé à une femme qui se destine à la vie religieuse. Bien évidemment, ce qui relie les deux poèmes l'un à l'autre est le mot qu'ils ont en commun. Vous l'avez tous vu, c'est le mot michi, la voie, le chemin. Le premier et dernier poème du Genji, dans les 700 pages en traduction que vous avez, les premiers et deuxième et derniers poèmes qui sont vraiment très courts et qui balisent le roman, comportent le mot michi, la voie. Dans le premier, c'est un chemin où l'on va pénétrer, bien qu'il s'agisse en fin de compte d'un chemin pris à regret et qui n'aboutira qu'à la mort. Dans le second, c'est un chemin que l'on a parcouru. Et l'on appréciera d'autant plus les marques superficielles du poème à thème bouddhique, du shakyoka que présente le poème, que le contenu même est à rebours de celui d'un poème à thème bouddhique. Malgré la présence des mots nori, shi, michi, shirube, yama, n'est-ce pas ? Nori, la loi, shi, le maître de loi, michi, la voie, shirube, le guide, que l'on voit très abondamment dans les textes. Yama, c'est la montagne du lotus, et Madao, c'est l'égarement dans le monde. Ce sont des termes qui abondent dans les poèmes bouddhiques, où la montagne désigne souvent le sutra du lotus, la montagne où est prêché le sutra du lotus, le washi no yama, n'est-ce pas, le mont des aigles. Et ce poème est un constat de perdition. La voie parcourue dans le roman est ainsi signalée en ses deux extrémités, sous un jour on ne peut plus sinistre, ushi, ukiyo, n'est-ce pas ? Et pourtant, la tonalité bouddhique est évidente. Le roman décrit bien une voie, mais laquelle et dans quelle intention ? La conclusion du no est-elle par trop invraisemblable ? Je ne dirai pas, vous le saurez la semaine prochaine, mais je pense que nous avons compris à présent que le Genji Monogatari se présente comme un roman complexe, non seulement par la psychologie des personnages, mais par sa structure même qui semble porter un sens. Je vous remercie pour aujourd'hui.